France Inter.
J'ai saisi les différentes administrations il y a de ça plusieurs jours pour avoir une étude d'impact précise sur l'absence de PLFSS qui nous amènerait, je cite, à une perte de contrôle total du pilotage de la sécurité sociale qui nous emmènerait à 29 ou 30 milliards d'euros de déficit pour l'année prochaine.
Vous aurez reconnu le Premier ministre Sébastien Lecornu qui, cette semaine, à la tribune de l'Assemblée nationale, a cherché à dramatiser le moment. Mais mardi, l'Assemblée votera ou ne votera pas le budget de la Sécu. Un vote présenté comme décisif, presque héroïque, et pourtant ce qui se joue ressemble moins à une bataille budgétaire qu'à une affaire de boutiquier. En marchant de quoi ? Une abstention, on négocie un amendement. L'objectif n'est plus vraiment de construire un budget, mais simplement de survivre à son passage. Le gouvernement se félicite d'avoir arraché hier la partie recettes. Les députés ont revoté hier soir la suspension des retraites. Très bien, mais ce texte a perdu toute cohérence, il a été charcuté. Mais ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas une voie supplémentaire. C'est une vision. Justement, pendant ce temps-là, un rapport sur la démographie publié cette semaine a mis sur la table l'éléphant au milieu de la pièce. La Cour des comptes l'appelle l'effet ciseau. D'un côté, on fait moins de bébés, donc moins de recettes. De l'autre, la population vieillit et on a donc plus de dépenses. Nous entrons dans un cycle où notre modèle social va coûter de plus en plus cher alors que sa base de financement se réduit. Autrement dit, ce budget ne répond absolument pas au défi qui arrive. Un défi démographique, structurel, mais que personne ne semble pressé d'affronter. On parle de taxes ponctuelles, de niches rabotées, alors qu'il faudrait repenser la façon dont on finance la protection sociale, la façon dont on travaille, la façon dont on répartit l'effort entre générations. C'est cela le vrai sujet, si on veut s'écrire un avenir où le mot « redistribution » aurait encore un sens.
On n'arrête pas l'écho. Emmanuel Duteil sur France Inter.
Bienvenue dans votre Mag Echo. Alexandra Ben Saïd sera de retour le week-end prochain. Mais moi, je vous présente l'équipe de ce week-end. Valentin Pérez m'a aidé à préparer cette émission. Anne-Cécile Perrin était notre chasseuse de son. À la réalisation, Étienne Bertin. Le mixage a été fait par Rémi Assistiaga. Et à la console, là, juste derrière la vitre devant nous, Thiaï Ravu. Au sommaire, ce matin, la sécurité aérienne, après le bug qui a cloué au sol des A320 le week-end dernier, la bataille du climat et des carburants durables pour l'aérien, la hausse des prix des billets, l'avenir d'Air France KLM. Notre invité vers 9h40 est très rare dans les médias, ce sera Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France. Tiens, l'aérien est contraint de se mettre au vert. Mais est-on prêt ? A-t-on suffisamment de ces carburants en France ? Et puis, qui va payer le surcoût ? Notre reporter, Annaëlle Verzo, nous emmènera tout à l'heure à Petite Couronne, près de Rouen, découvrir une usine qui va fabriquer, d'ici quelques années, des carburants à base d'hydrogène. D'ici là, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Alors, ça ne pourrait pas arriver avec vous, hein, mais le ton peut vite monter au bureau quand on se prend le bec. Sandrine, jusqu'où on peut aller dans les noms d'oiseaux ?
Oui Emmanuel, dans quelles conditions peut-on traiter son patron de salopard sans prendre la porte ? Eh bien la jurisprudence est en train d'évoluer sur le sujet, je vous raconte ça tout à l'heure.
Comment vous dire qu'on a un tout petit peu hâte de vous retrouver en toute fin d'émission ? Mais d'ici là, bonjour Sophie Fay.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste économique au Monde. Bonjour Jacques-Olivier Martin.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de la rédaction du Figaro.fr. Emmanuel Macron est de retour de Chine. C'était sa quatrième visite depuis 2017. Dans ses valises, une quarantaine de patrons. Objectif affiché par les Ukraines, mais surtout tenter de freiner les arrivées de produits chinois en France. Ces voyages présidentiels servent-ils encore à quelque chose alors que l'Europe se découvre chaque jour un peu plus dépendante de la Chine ? Peut-on encore reprendre la main ? C'est notre débat éco du jour.
Emmanuel Macron est arrivé en Chine pour une visite d'État de 3 jours au menu des discussions. La politique, un volet diplomatique avec le soutien de Pékin à la Russie. Mais le président français va aussi tenter de rééquilibrer les relations commerciales avec la Chine.
Nous disposons en effet d'une relation économique solide.
Emmanuel Macron.
46 milliards d'euros d'investissements français en Chine, 12 milliards d'euros d'investissements chinois en France. Et aujourd'hui, alors que des entreprises chinoises sont à la pointe de l'innovation, il est temps d'ouvrir une nouvelle page. Accroître nos investissements croisés et viser une augmentation du stock d'investissements chinois en France d'ici 2030.
Maintenant, j'invite le ministre Roland Lescure et le ministre Wang Wentao à prendre place pour signer la lettre d'intention sur les investissements croisés. Veuillez échanger les documents.
La France a choisi, dans les années 70, 80, 90, de s'orienter vers une économie de services et de laisser tomber l'industrie.
Marie-Françoise Renard, économiste, professeure émérite à l'Université de Clermont-Ferrand.
On voit le résultat aujourd'hui. Au plan de l'industrie, on est dépendant, et on est dépendant du pays qui est le plus puissant industriellement, à savoir la Chine.
On a des informations qui nous indiquent que des décisions pourraient être prises de manière imminente sur des droits de douane suffisamment élevés pour menacer une partie des exportations de produits laitiers français vers la Chine.
François-Xavier Huard, PDG de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière.
Actuellement, on a des droits de douane à 15% et on parle de droits de douane supplémentaires à 30, 40, voire 50%. Si on arrive à ces niveaux-là, ce serait tout le marché chinois qui serait remis en cause.
La Chine est un marché relativement faible pour nous.
François Schmitz, responsable de projet Europe à l'Institut Montaigne.
La réalité est qu'on va quand même exporter très nettement plus aux États-Unis aujourd'hui, malgré les droits de douane, que vis-à-vis de la Chine, où on est de plus en plus cantonné à des biens de consommation de luxe dont la valeur stratégique est assez modeste, pour ne pas dire plus.
Sophie Fay, je vais débuter tout de suite avec vous et avec le bilan à chaud. Ces grandes visites d'État en Chine, on va se poser vraiment cette question. Est-ce que ça sert encore vraiment à quelque chose? Ou c'est du spectacle?
Non, ça sert à quelque chose. Alors, la différence avec celle qu'on avait avant, c'est qu'on n'a pas l'annonce d'une ribambelle de grands contrats.
On n'a même pas nos Airbus.
Ben voilà, d'Airbus. On a un peu d'Alstom quand même, on a un peu de sous-traitance d'Alstom. Mais c'est quand même important parce que, vous savez, le monde a changé. Il y a quelques années, on était en paix, on croyait que le commerce nous assurerait une paix éternelle. Et là, aujourd'hui, on est quand même dans un monde en guerre, guerre en Ukraine, menace permanente sur les autres pays d'Europe, guerre commerciale avec les États-Unis. Et donc, on va plus chercher les contrats, mais on a des choses à se dire. Il faut savoir que la Chine soutient l'effort de guerre russe en achetant leurs hydrocarbures et surtout en fournissant ces pièces qui servent à faire les drones, là, les VT-40, les drones qui sont utilisés sur le champ de bataille. Et donc c'était important quand même d'aller les voir pour parler de ça. La deuxième chose, c'est qu'on ne veut plus que les sociétés chinoises exportent sans respecter nos normes sanitaires, éthiques et fiscales, la TVA. Et donc en rappelant ça au président et au plus haut niveau, on sait que
mais
l'image...
Mais rappeler, ça veut dire appliquer?
Non, mais le rappeler au président, ça veut dire qu'il est très soucieux, lui, de l'image de la Chine. Ils ne veulent pas avoir l'air d'un pays qui vend des trucs bon marché, de mauvaise qualité et qui ne respecte pas les règles. Donc peut-être qu'il va, c'est pas sûr, mais peut-être qu'il va un peu discipliner ses plateformes. Et puis la troisième chose, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, ça reste un très grand marché pour nous. C'est 5 milliards bien d'euros sûr. D'aéronautique, c'est 2 milliards de luxe, 2 milliards de parfums, autant de produits pharmaceutiques. Donc il faut quand même qu'on exporte et il faut qu'on défende notre image. Et j'ai trouvé que c'était bien de parler aux étudiants et de leur dire venez en France parce qu'il faut qu'on défende notre soft power, c'est-à-dire notre pouvoir culturel qui n'est pas si fort que ça.
Jacques-Olivier, vous signez justement ce matin l'édito du Figaro sur ce thème. Vous avez appelé ça le théorème du panda. Très concrètement, est-ce qu'un président français peut faire bouger Pékin? Alors on l'a dit sur l'Ukraine, mais nous on va s'intéresser principalement au commerce. Ou est-ce qu'on surestime là aussi complètement ses déplacements?
Allez, moi je vais voir le verre un peu plus vide que ce que vient de dire Sophie. Moi je pense que dans ce type de déplacement, que ce soit sur le volet diplomatique ou le volet économique, c'est une histoire d'intérêt pour les parties qui se rencontrent et de rapport de force. L'intérêt pour la Chine vis-à-vis de la France, on parle d'un déficit considérable, il est de quelle nature finalement? Sécurisation de l'approvisionnement de matières premières alimentaires, ça peut être une technologie qu'on n'a pas, essayer de l'acquérir, et puis c'est un marché, l'intérêt, c'est de pouvoir vendre ses produits. Là, quand la France vient réclamer un rééquilibrage, sur ce volet économique, soyons clairs, qu'est-ce qu'on a comme intérêt? Éventuellement, encore un marché. Les technologies de rupture, on les a plus, ou en tout cas, ils les ont, et la sécurisation, ils ont réussi à le faire. Bon, donc, là-dessus, peut-être y avoir un petit intérêt pour la Chine. Mais quand on regarde ça, là, et là, c'est l'histoire, j'ai envie de dire, du rapport de force. La France, c'est minuscule aujourd'hui pour les exportations chinoises, à peu près 2%. Donc, même si on dit, oulala, on pourrait fermer notre marché, ou tout, les Chinois peuvent le contourner. Donc, c'est ça, la grande difficulté, je trouve, c'est de bien prendre conscience que c'est aujourd'hui très difficile de faire bousculer la Chine, qui est dominante à peu près partout.
Et bien justement, entrons vraiment au cœur économique de ce débat. Sophie, vous étiez en Chine il y a de ça environ un gros mois. Comment vous pourriez décrire la méthode chinoise vis-à-vis de l'Europe ? On parle souvent de dumping sur le bas de gamme, mais ça, je trouve que c'est vraiment une image d'Épinal, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur les produits ultra technologiques qu'on est peut-être le plus concurrencé. Chine, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, quoi.
C'est l'arbre qui cache la forêt, mais on a les deux. Hein. Vous avez les ouvrières dans les ateliers qui fournissent Chine, qui travaillent de 9h du matin à 22h, qui travaillent sans arrêt pendant 20 jours et qui, toute la journée, mettent des t-shirts ou des vêtements dans des sacs. Donc, vous avez ce côté-là de la Chine, il ne faut pas le nier. Mais vous avez aussi une Chine ultra technologique. Vous savez, à force d'être l'usine du monde et d'avoir les centres de R&D à côté de l'usine, ben à la fin, ils maîtrisent toute la chaîne. Vous avez en Chine ce qu'on appelle des dark factories, c'est-à-dire des usines sans éclairage, sans lumière. On n'en a plus besoin puisque c'est les robots qui travaillent. Il n'y a plus d'humains à part pour régler les machines. Donc ça, j'en ai vu à Chengdu, chez Valeo, par exemple. Ils font des phares de Tesla, des éclairages de Tesla, sans ouvriers.
Et le patron de Valeo dit lui-même qu'il a besoin de ces usines chinoises pour rester compétitive en France. Il en apprend tous les jours, quoi.
Exactement. Et vous avez une deuxième dimension qui n'est pas si facile pour la Chine, c'est qu'à force de faire ces usines, à force que chaque province, chaque grande ville veuille ses usines, on a une Chine en surcapacité, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire à eux seuls 105%, donc plus que toute la demande mondiale d'automobiles. Donc il faut qu'ils les exportent leurs produits. Et c'est la même chose sur les panneaux solaires, c'est la même chose sur les climatiseurs, sur les pelleteuses, sur les batteries. Ils en ont beaucoup trop. Et donc vous avez des bagarres dans les villes pour trouver de l'emploi, pour sauver l'industrie, pour sauver l'emploi industriel. Dans cette ville à Chengdu, qui était la ville de l'Apple, en plus comme le marché américain s'est refermé et que les États-Unis...
C'est ça aussi l'un des problèmes du moment, c'est-à-dire qu'on est inondé parce que le marché américain est fermé.
Voilà,
donc, ça s'est accéléré.
Ouais, et donc à Chengdu, ils ont déporté la fabrication d'iPhone vers des pays comme le Vietnam ou d'autres pays. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une usine BYD pour compenser l'emploi perdu par la fabrication d'iPhone. Donc ils sont vraiment dans cette lutte. Tout n'est pas si rose en Chine, il faut bien le dire.
Ah ben bien évidemment, et la consommation intérieure est très difficile. C'est aussi pour ça qu'on est inondé. Jacques-Emmanuel, est-ce que justement, tout ça c'est une question de puissance industrielle, de prix cassé, où on aurait perdu le combat d'après vous ?
Moi,
le verre, il est quoi ? À moitié plein ou à moitié vide ?
Disons, quand on regarde le verre chinois, il est très plein. C'est-à-dire que c'est quand même l'usine monde, l'usine vraiment. C'est un outil de production hyper moderne qui peut industrialiser hyper vite. Donc ça, c'est une force incroyable. L'hyperpuissance, c'est ça. On ajoute l'innovation technologique, Sophie en parlait. C'est un pays qui maintenant innove à peu près dans tous les domaines. Donc vous additionnez une capacité de production et à usiner très vite de l'innovation, des coûts assez bas, du dumping, des aides massives.
De la subvention, bah, en effet.
Donc c'est ce cocktail, cet assemblage, aujourd'hui, fait cette puissance chinoise. J'insiste quand même, et je partage l'analyse de Sophie, c'est devenu aussi un pays innovant dans tous les domaines. Et ça, il faut le savoir, ils sont en train de gagner la bataille de la voiture. Ça fait quelques années.
Le palier des médicaments, c'est eux qui aujourd'hui déposent le plus de brevets dans le monde. Hein.
Mais de très loin, de très très loin. Donc c'est un pays qui devient innovant et qui associe son innovation à une usine ultra-moderne. Ça, c'est gagnant.
Alors Sophie, on l'a compris, ils inondent, ils ont des produits hyper technologiques. Mais bon, l'Europe commence quand même un petit peu à se défendre. On a des enquêtes en subventions, on a des surtaxes sur les voitures électriques chinoises, on tente de faire des choses autour de l'acier. Mais ça ressemble à quoi ? C'est une stratégie ou c'est une réaction tardive et perdue ?
Ben, c'est un peu les deux, Emmanuel. Il y a une prise de conscience, il y a une vraie lucidité à Bruxelles et l'envie de faire quelque chose. Mais comme toujours, il y a 27 États membres qui ont autant d'intérêts, qui sont parfois divergents, qui changent dans le temps. Et vous avez des pays comme la Hongrie qui veut des usines chinoises, mais c'est pas grave si elles viennent avec la main d'œuvre chinoise.
Ou parfois, pour un pays qui ne veut pas d'immigration, ils ont même fait des dérogations pour des pays comme les Philippines ou ce genre de choses pour pouvoir remplir les usines justement hongroises.
Exactement. Et par ailleurs, vous avez l'Espagne qui se se dit aussi pour gagner la bataille de l'automobile, il faut faire venir ces usines chinoises. Donc vous avez les Allemands qui continuent quand même à beaucoup vendre. Donc tout ça est un peu, c'est difficile de trouver une position commune entre tous ces intérêts. Mais vous avez des entreprises allemandes qui changent un peu, hein, comme Bosch ou Volkswagen, et qui acceptent de commencer à parler de cette idée d'avoir un contenu local pour pouvoir labelliser un pays, un produit ou une voiture comme Made in Europe. Et vous avez des Chinois.
Je veux dire un contenu local pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est-à-dire que par exemple une voiture produite en Europe devrait avoir un minimum, on n'est pas d'accord sur le chiffre entre constructeurs et équipementiers, mais de produits fabriqués uniquement sur notre sol avec des matières qui viennent de l'Europe.
Exactement. Et ça, les Chinois sont assez ouverts à ça, paradoxalement, puisqu'ils sont en train de construire des usines en Europe, et puis parce qu'ils utilisent tous une entreprise qui est en Autriche et qui assemble les voitures pour les constructeurs chinois qui veulent et qui n'ont pas encore un marché assez grand pour construire leur usine. Donc, c'est difficile de trouver une position européenne parce que de toute façon, quand on trouve une parade, il la contourne tout de suite.
Avec également Stellantis qui va distribuer les voitures de Leapmotor, qui est un des gros constructeurs chinois. Jacques-Olivier Pékin riposte hein, sur le cognac, les terres rares, parce que ça, c'est quand même un sujet totalement capital. Jusqu'où cette guerre commerciale peut aller sans que nos propres industries se retrouvent prises en étau? Parce que c'est la grande question au final. Bloqué, mais pourquoi?
C'est toujours une histoire de rapport de force. Vous le dites, vous l'exprimiez sur le cognac. À partir du moment où on commence à s'attaquer à la Chine, qu'on dresse des barrières, la Chine riposte. Et donc, jusqu'où ça peut aller? On l'a vu dans les années passées. La Chine est prête à aller très loin. Elle est prête à fermer l'accès à certains marchés jusqu'à mettre en difficulté des secteurs. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui parce qu'il faut avoir, je pense, une vision qui dépasse la seule Chine. C'est que l'autre grand marché, on parlait du cognac ou des matières alimentaires, c'est les États-Unis. Et dans le même temps, les États-Unis mettent des droits de douane. Donc c'est la double peine. Donc c'est plutôt une géopolitique commerciale qui peut pénaliser fortement des secteurs entiers.
Vous avez un défi, vous allez devoir chacun répondre en 30 secondes aux questions que je vous pose. Sophie, côté français, on veut attirer des investisseurs chinois. On veut qu'ils mettent des usines chez nous, mais l'Élysée dit « je veux plus d'usines tournevis ». Grosso modo, ça veut dire il faut qu'ils travaillent avec des Français et qu'on ait un partage de compétences techniques. Là, c'est du rêve ou c'est possible?
Alors, c'est possible, mais ça va nous coûter cher parce que le patron de CATL, par exemple, qui fait des batteries, a expliqué à quelles conditions il était prêt à venir. Lui, il veut zone franche, il veut un droit du travail comme en Chine, il veut les mêmes conditions pour pouvoir produire ses batteries au même prix. Donc, bonne chance.
Bonne chance, et bah, bravo déjà d'avoir tenu les 30 secondes. Jacques-Olivier, là, vous voyez, le défi, il est posé. Est-ce que la vraie réponse, c'est pas de se réindustrialiser aussi chez nous?
Oui, et on a des atouts, on a de la main-d'œuvre, on a de l'argent, on a des PME innovantes. Donc oui, on peut l'imaginer, je vais aller vite, à condition que l'environnement soit bon. On a parlé des dissensions en Europe, il faut que l'Europe s'unisse véritablement dans cette
affaire. Français.
Oui, un petit budget français.
Ça aiderait aussi.
Ça aiderait. Mais c'est aussi une réponse européenne. Aujourd'hui, la Chine, elle voit l'Europe avant de voir la France. C'est en tout cas ce que je crois.
Eh bien, je crois qu'on peut vous dire bravo. Merci Jacques-Olivier Martin, directeur de la rédaction du Figaro.fr. Un grand merci, également à Sophie Fay, journaliste au service Économie du Monde. Ils ont fait quoi? Ils ont fait le débat éco cette semaine.
Real decreto ley para la ampliación de derechos
deindustrialisierung und
unemployment and lower job
creation.
C'est l'heure de l'actu éco en VO. Chaque semaine, un correspondant nous décrypte un fait économique qui raconte l'économie de son pays.
Si tratta di affermare che l'oro è di proprietà dello Stato italiano. La Banca d'Italia lo detiene, lo gestisce, ma è importante che sapere chi è il proprietario, e cioè il popolo italiano.
On vient d'entendre Lucio Malanni, sénateur de Fratelli d'Italia. C'est le parti de la présidente du Conseil Giorgia Meloni. Il veut utiliser les réserves d'or de la Banque d'Italie pour financer les dépenses de l'État. On retrouve depuis Milan Gianne Bergawi, une des correspondantes de France Inter en Italie. Bonjour Gianne.
Bonjour.
Alors on ne le sait pas toujours, mais l'Italie a les troisièmes réserves d'or au monde. Ça aiguise un tout petit peu les convoitises, au point que des sénateurs italiens, dont Lucio Malanni qu'on vient d'entendre, veulent déposer un amendement au budget 2026 pour que l'État puisse gérer ses réserves d'or au nom du peuple italien. Mais plus largement, Gianne, ce qui est intéressant, c'est que des idées fleurissent aussi pour que les Italiens sortent l'or sous forme de colliers ou autre chose de chez eux.
Ce sont effectivement les petits trésors familiaux hérités par exemple d'une nonna qui sont ici dans le collimateur. Des pièces et des lingots d'or qui dorment peut-être sous un matelas et qui n'ont pas forcément de justificatif d'achat. Jusqu'ici, rien n'incite les Italiens détenteurs de ces petites quantités d'or à s'en séparer légalement, car sans document d'origine, ils doivent payer une taxe de 26% sur la valeur totale de la vente. Alors, pour encourager la monétisation de cet or, la loi de finances 2026 pourrait introduire un mécanisme d'allègement fiscal avec un taux d'imposition de 12,5%. Selon les estimations, si seulement 10% de cet or dissimulé était revendu, cela pourrait générer un gain d'environ 2 milliards d'euros pour le Trésor italien. En parallèle de cet amendement étudié en ce moment au sein de la commission du budget, une autre disposition fait davantage polémique, celle défendue par le parti de Giorgia Meloni afin que les réserves d'or soient déclarées propriété du peuple. Une mesure qui, selon les détracteurs, pourrait ouvrir la voie à une vente potentielle d'une partie de cet or italien. Une immense fortune gérée par la Banque d'Italie. Elle détient 2452 tonnes d'or pour une valeur de marché estimée aujourd'hui à environ 280 milliards d'euros.
Bon là, on est clairement dans du populisme. La Banque Centrale Européenne n'est pas du tout d'accord avec cette idée.
Elle est même carrément perplexe. Dans un avis adressé ce mercredi au gouvernement italien, la Banque Centrale Européenne assure ne pas comprendre clairement l'objectif concret de ce projet d'amendement et elle invite les autorités à reconsidérer cette proposition, notamment pour préserver l'indépendance de la Banque d'Italie. Les réserves d'or, c'est un peu comme une tirelire de secours. Elles servent à protéger la stabilité financière du pays, pas à payer les dépenses publiques. Mais surtout, la Banque d'Italie, elle est soumise à la supervision de la BCE et elle doit respecter les traités européens. Ces derniers sont très clairs, les banques centrales ne peuvent pas financer directement les gouvernements. En Italie, l'avis négatif de la BCE continue de faire réagir. Si le ministre des Finances plancherait sur un nouveau texte plus consensuel, les parlementaires de Fratelli d'Italia n'hésitent pas à jouer la carte défensive. Selon l'un d'entre eux, Francesco Filini, le code monétaire français stipule clairement que la Banque de France a pour mission de détenir et de gérer les réserves d'or de l'État. Si l'amendement italien viole les traités, eh bien alors la France se trouve dans la même situation.
Eh bien, merci beaucoup, Jeanne Bergawi, correspondante de France Inter en Italie. Il est 9h35 et dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag Éco sera Anne Rigail, la directrice générale d'Air France. On a beaucoup de questions à lui poser, notamment au sujet des carburants durables. Ben tiens, justement, l'aérien qui représente un petit peu plus de 2% des émissions de carbone dans le monde est contraint de se verdir. Parmi les pistes, ces carburants durables. Outre les biocarburants, plusieurs projets d'usines de production de carburants à base d'hydrogène sont en préparation aujourd'hui en France. On n'arrête pas l'Éco. Vous emmène ce matin en Normandie. Plus précisément à Petit-Couronne, on est à 10 km de Rouen, c'est une ville industrielle et c'est justement sur l'ancien site de la raffinerie de Petroplus que s'apprête à être construite une unité de production d'hydrogène pour carburant d'avion. On va retrouver sur place notre reporter Annaëlle Verzo, elle est avec Joël Bigot, ancien ouvrier de Petroplus et actuel maire de Petit-Couronne. Il a donné son feu vert à l'entreprise Verso Énergie pour que son usine s'installe ici.
Il y a écrit « chantier sous vidéosurveillance ». On vient d'arriver sur un terrain très grand. 15 hectares, ça fait ça,
Joël ? 15 hectares. Alors, l'implantation de cette entreprise, Verso Énergie, se fera sur l'emprise de ce terrain-là.
L'usine va fonctionner à partir de quand ?
C'est prévu 2030. Et aujourd'hui, vous voyez, on a de l'herbe, on a des arbres.
Là, derrière, il y a la forêt, je vois.
Et ensuite, on est sur l'autoroute A13 qui va vers Paris. Nous sommes situés sur une ligne de transport de carburant, la ligne Le Havre-Paris, qui passe par Petit-Couronne, puisque historiquement, vu qu'il y avait une raffinerie, il y avait des expéditions vers les aéroports parisiens. Et la présence de ces lignes, de ces pipes, fait que c'est un intérêt majeur pour implanter ce type d'usine.
Le projet, qu'est-ce que ça va être exactement ?
On utilise du CO2 qui sera fait non pas à partir de pétrole, mais à partir de carburant naturel. Il y aura une électrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène. Ce mélange entre le CO2 et l'hydrogène donnera du méthanol. Et à partir de ce méthanol, ils feront du carburant de synthèse pour l'aviation. Un carburant plus durable parce que l'idée, c'est de, à l'horizon 2050, supprimer environ 60% de rejets de CO2 dans l'aviation mondiale.
Bonjour monsieur.
Ah, pardon monsieur, vous êtes avec votre chien, vous arrivez en voiture juste derrière nous.
Moi je chasse sur les terrains ici en fait.
Vous avez entendu parler d'un projet de Verso Énergie qui va
Nous on fait un petit peu la tête, je vous cache pas, parce que c'est quand même un petit havre de paix en plus. Nous on a remis des oiseaux ici, on a relâché du faisan, c'est notre petit coin de nature.
Moi en tant que maire, ce que je veux c'est qu'il y ait de l'emploi ici. Quand on me montre un projet qui va être de l'ampleur de plus d'un milliard et demi d'euros, il y avait une raffinerie là, il y avait plus de 1000 personnes qui travaillaient.
Dans la ferraille, je suis soudeur.
De toute façon, je vais vous dire, si ça ne se fait pas chez nous, ça se fera ailleurs, parce que cette technologie-là, il faut qu'elle existe de manière à ce que dans les avions, il y a un pourcentage de carburant de synthèse à partir de 2030 jusqu'en 2050.
Merci monsieur, bon, bonne balade. Alors, vous avez déjà rencontré le directeur de l'entreprise, Antoine Huard.
Oui, bien sûr, on se voit assez souvent.
Oui, allô.
Oui, bonjour. Antoine Huard, c'est Anaëlle Verzeau de France Inter.
Bonjour madame. Bonjour monsieur le maire.
Voilà, il vous salue également. Alors, il y a un enjeu de souveraineté.
Deux enjeux, un enjeu de souveraineté, puisque grâce à cette usine que nous projetons, eh bien, nous pourrons produire le carburant ici et plus l'importer. Et un enjeu de climat. Donc, on est en train de déposer des demandes d'autorisation et on espère les obtenir d'ici un an pour pouvoir démarrer la construction de l'usine en 2027.
Très bien. Merci beaucoup.
Bonne visite à monsieur le maire et puis je vous souhaite une bonne visite à Petit Couronne.
Merci. Au revoir. Au revoir.
Pour décarboner l'aviation, un règlement européen impose aux compagnies aériennes d'alimenter les réservoirs de leurs avions avec au moins 2% de carburant durable. L'objectif est de passer à 20% en 2035, puis à 70% en 2050. Aujourd'hui, il existe deux types de carburant durable. D'une part, les biocarburants, à partir de biomasse ou d'huile végétale, fabriqués par exemple en France par Total Energy, et d'autre part, les e-carburants, à base d'hydrogène. Eux sont jusqu'à présent fabriqués dans certains pays étrangers, notamment en Islande, au Danemark ou en Chine. Me voici maintenant à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare. Je me rends dans les bureaux d'une PME qui, comme Verso Énergie, se prépare, elle aussi, à ouvrir une usine pour fabriquer du e-carburant.
Moi, je suis Pascal Pénicaud, je suis président et cofondateur d'Elise Énergie.
Ouverture prévue en 2030, sur le bassin de Lac, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Ça représente donc un investissement de près de 2 milliards d'euros. Alors, on n'est pas encore aux 2 milliards, on a encore 2 ans pour y arriver, donc on y travaille. Aujourd'hui, on a sécurisé 329 millions d'euros de financement, majoritairement des acteurs privés, et avec le soutien, l'appui de la BPI, l'État joue un rôle de catalyseur pour que les investisseurs privés puissent prendre leur part du risque dans le développement de ces nouvelles filières. Aujourd'hui, il y a une dizaine de projets qui ont été annoncés en France. Ça représente 16 milliards d'euros d'investissement. Et globalement, ça permettrait à la France d'être autosuffisante par rapport aux objectifs de 2030.
En moyenne, les carburants durables coûtent entre 3 et 8 fois plus cher que le kérosène pour les compagnies aériennes. Leur montée en puissance dans les prochaines années a déjà des conséquences sur le prix des billets.
Je vois qu'il y a des avions là sur la table, des petites maquettes d'avions.
Je vais rencontrer Laurent Timsit, le délégué général de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Il me reçoit dans ses bureaux, à deux pas des Champs-Élysées.
L'incorporation de carburants d'aviation durable est répercutée dans les coûts des compagnies aériennes. Donc aujourd'hui, oui, ça renchérit le prix des billets d'avion, mais comme ça reste des quantités qui sont modestes aujourd'hui, puisqu'on est à 2% d'incorporation, la répercussion dans le prix des billets est assez modeste. En revanche, comme ce calendrier est ambitieux dans le temps, la hausse des prix sera plus significative. Il y a la question de l'augmentation des coûts, mais il y a aussi surtout le sujet de la distorsion de concurrence.
Donc vous vous demandez à ce que tout le monde soit aligné sur cette réglementation?
Exactement. Si toutes les compagnies, et notamment les compagnies étrangères, n'avaient pas ces obligations, et aujourd'hui c'est le cas puisque ces mandats n'existent qu'en Europe, de manière évidente, ça crée une distorsion de concurrence sur les liaisons, en particulier long courrier, et c'est ça qui est particulièrement inquiétant pour les compagnies européennes.
Ouverture des portes. Doors opening.
Je me trouve à l'aéroport d'Orly, au niveau des départs, au milieu des voyageurs qui s'apprêtent à prendre l'avion. Bonjour.
Bonjour.
Vous partez où ?
Naples.
À Naples, ouais. En Italie.
Oui, c'est ça.
Vous savez qu'en 2050, en principe, il y aura 70% du carburant qui sera du carburant plus écologique.
Non, je ne suis pas au courant, mais ça serait mieux pour l'écologie et tout, tu penses ?
Alors, sauf que le billet sera plus cher, a priori.
Ouais.
Est-ce que vous allez continuer à voyager quand même, si le prix du billet est plus élevé ?
Je vais réfléchir pour prendre le train ou même le bus.
Et votre prénom, c'est comment ?
Lynn, L-I-N.
Et vous êtes originaire d'où ? J'entends que vous avez un accent.
Oui, de Taïwan.
Vous avez quel âge ?
27 ans.
Et là, on va pas très loin, on va à Toulouse pour le travail. Ouais. C'est soit on prend 6 heures de train, soit on fait une heure d'avion. Donc non, l'avion reste un mode de transport beaucoup plus rentable en termes de temps. En termes d'empreinte carbone un peu moins, mais en termes de temps, oui.
Mais justement, l'empreinte carbone, elle pourra diminuer.
Eh ben, tant mieux. Si on peut allier l'utile et l'agréable, ça me va bien.
Et si c'est jusqu'à 2 fois plus cher le prix du billet, vous prendrez l'avion quand même?
Oui.
Vous aussi, monsieur, pardon.
Tout à fait pareil, ouais. Ouais, c'est le mode de transport le plus sympa pour partir loin et en peu de temps, donc ça va bien.
Et vous prenez l'avion combien de fois par an à peu près, vous savez?
30, 40, 50 fois peut-être.
Quelque chose comme ça, ouais. Si on cumule pro et perso, on est bien à ça, ouais.
Vos prénoms, c'est comment?
Jonathan.
Ludovic.
Et bah bon retour, bon
vol. Merci, bon,
au revoir. La production mondiale de carburant durable a été multipliée par 12 en 3 ans. Mais à ce stade, 99,7% des avions à travers le monde sont toujours alimentés avec du kérosène. Alors comment inciter les compagnies aériennes à faire leur transition sans pour autant sacrifier le pouvoir d'achat des voyageurs? Nicolas Salomon est chargé de projet chez Boston Consulting Group, un grand cabinet de conseil. Il a coécrit un rapport sur le sujet, paru en mars dernier.
Pour libérer le potentiel du marché, il y a un premier levier qui est le soutien public avec des subventions, la tarification du carbone, etc., qui peuvent abaisser le coût du capital, réduire l'écart de prix avec le kérosène fossile et rendre les projets plus finançables, notamment pour des nouvelles technologies plus vertueuses. Il y a encore un autre levier qui est de sécuriser les revenus des projets avec des mécanismes qui peuvent garantir un prix plancher aux producteurs tout en réduisant le risque pour les investisseurs. Et enfin, si je dois donner un dernier levier, ce serait une collaboration élargie de toute la chaîne de valeur, un partage du risque des compagnies aériennes aux voyageurs, en passant par les producteurs, avionneurs, aéroports. Si ces conditions-là sont réunies, les carburants d'aviation durable peuvent non seulement devenir la principale solution de décarbonation du secteur, mais aussi une opportunité industrielle majeure pour les régions qui choisissent d'investir dès maintenant.
Le secteur aérien face au défi des carburants durables, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Emmanuel Duteil.
Bonjour Anne Rigaille.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale d'Air France. Vous êtes très très rare dans les médias. Merci d'avoir choisi On n'arrête pas l'écho sur France Inter pour vous exprimer ce matin. Dans un instant, on va parler justement de ces carburants durables. Mais je voudrais commencer par cet incident, notamment logiciel, qui a conduit le week-end dernier à immobiliser une partie de la flotte d'Airbus A320. Vous avez annoncé annuler une trentaine de vols. Comment on gère cette situation quand le vendredi à 18h, on nous dit « demain matin, il n'est pas possible de voler ».
Je crois que c'est une belle illustration que la culture de sécurité fonctionne bien dans l'industrie aérienne. Finalement, un événement qui s'est passé fin octobre dans une compagnie aérienne américaine amène le vendredi à recevoir dans toutes les compagnies du monde une instruction d'Airbus de faire revenir nos avions à la base pour ceux qui sont concernés et de changer le logiciel des calculateurs concernés. Au final, c'était seulement 6 appareils pour Air France qui étaient concernés, qui ont été traités dans la nuit.
Et vous ne faites pas partie de ces compagnies qui ont des avions qui ont dû quasiment repartir au garage, tout a pu être réglé rapidement.
Alors 6 sont repartis au garage, comme vous dites, et ils ont effectivement été traités dans la nuit. Nos équipes de maintenance étaient sur le pont, nos équipes commerciales aussi pour prévenir les clients puisque certains ont été impactés, et merci pour leur compréhension. Mais je crois que ça explique pourquoi l'aérien, le transport aérien, finalement le transport le plus sûr au monde, c'est ce partage d'informations et cette réaction immédiate à chaque incident.
Je ne veux vraiment pas faire peur aux auditeurs de France Inter ce matin, mais quand on voit les problèmes de Boeing, et cette semaine par ailleurs, quelques jours après, Airbus dit « tiens, maintenant c'est un problème de fuselage qu'on a sur des avions qui sont en train de sortir ou qui arrivent tout juste vers chez les clients ». Est-ce qu'on produit trop d'avions et donc on ne prend pas le temps de les faire correctement ?
Je ne crois pas. Je crois que les problèmes de supply chain, qui concernent tous les secteurs depuis le Covid, expliquent beaucoup des problématiques effectivement de qualité. Mais on a toujours eu ces sujets effectivement d'instruction. Ça nous arrive effectivement de recevoir une instruction d'immobiliser tel ou tel avion et de prendre le temps d'écarter le moindre doute. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que on est dans une industrie où on n'accepte pas le moindre doute au bénéfice de la sécurité.
Quand on réserve nos billets d'avion, généralement, on sait le type d'avion qu'on va avoir. Est-ce que vous avez des clients qui ne veulent plus prendre Boeing ? Qui font un arbitrage ?
On a eu beaucoup de questions et on a expliqué que déjà tous nos Boeing volent depuis longtemps. On a une très grosse flotte de 777. On était compagnie de lancement du 777. Ce sont des avions éprouvés qui sont vraiment avec la meilleure fiabilité dans notre flotte. Donc pas de sujet.
Pas de sujet. Vous venez de faire la plus grande commande de toute l'histoire du groupe Air France KLM avec notamment des A350, hein, 50 avions plus encore une option. C'est-à-dire que vous, vous vous dites bien sûr qu'on va voler beaucoup plus demain matin.
Alors d'abord non, nous remplaçons notre flotte. Nous avions seulement 7% d'avions de nouvelle génération en 2019 et notre objectif c'est de passer à 70% en 2030. On en est à peu près à 50% je crois. On vient de recevoir notre 40e Airbus 350 de Toulouse. On a aussi reçu des Airbus 220, on est au 50e. Et donc on n'a jamais renouvelé la flotte à une telle allure pour Air France dans toute l'histoire d'Air France et malgré le Covid. Toutes ces commandes ont été faites pendant le Covid avec évidemment tous les doutes sur l'avenir du transport aérien. C'est essentiel pour notre trajectoire de décarbonation, c'est le premier levier. Tout ce que nous gagnons, nous le mettons dans le renouvellement de la flotte, c'est 1 milliard d'euros par an, c'est un effort colossal.
Alors justement, parce que ces avions consomment moins, on vient de l'entendre dans le reportage, hein, l'autre gros avantage pour essayer de se décarboner, ce sont ces carburants moins pelants. Là aussi, dans l'excellent reportage d'Anaëlle Verzon, on l'a entendu, c'est cher et on n'en a pas beaucoup encore aujourd'hui en France. Vous faites partie des compagnies qui officiellement est un peu au-dessus des obligations européennes. Vous allez tenir vos objectifs de réduction dans ce contexte ?
Alors oui, c'est bien l'objectif. Depuis 2022, on est une des compagnies, même une des seules compagnies, avec peut-être British Airways et Lufthansa, à incorporer du carburant durable de manière massive. Pour vous donner un exemple...
Bah, massive, on est à quelques pourcents, quoi.
Alors, on est à quelques pourcents, mais au regard du secteur, on est quand même pionnier. Depuis 2022... Alors que le groupe Air France KLM représente 3% de la consommation de pétrole, on a incorporé 16 à 17% de tous les carburants durables fabriqués dans le monde. On est aidé aussi par les mandats européens, qui sont à 2% pour tous les vols au départ de l'Europe cette année. Et on propose également...
Vous êtes aidé ou vous êtes contraint ? Quand on est contraint, nous, c'est plus facile d'être mieux-disant.
Nous, on est plutôt... heureux d'avoir des mandats d'incorporation obligatoires, même si on sait qu'il faut aller au-delà. Et d'ailleurs, on propose à nos clients individuels d'acheter du carburant durable, clients business ou clients individuels. Et ça fonctionne, certains, effectivement, pour décarboner leur scope 3 dans les entreprises ou pour ou
le
par
scope
conscience.
3, c'est une fois qu'on considère tout ce qui a comme un impact sur l'impact carbone,
absolument,
notamment du client.
Mais quand on veut décarboner sa trajectoire, il faut décarboner le voyage de ses collaborateurs. Donc, effectivement, les carburants durables, c'est essentiel. Par contre, il faut avoir en tête que seule l'Europe, aujourd'hui, quasiment, a un mandat d'incorporation. Donc il faut que ce soit un enjeu mondial et l'Europe ne pourra pas décarboner toute seule le transport aérien.
Là, ce que vous dites, c'est que moi, j'ai un petit boulet au pied par rapport à mes grandes concurrentes, notamment asiatiques et américaines, qui n'ont pas les mêmes obligations. Est-ce que vous dites aujourd'hui à votre ministre des Transports, je continue que si vous me subventionnez ?
Alors, on dit, il faut aider à la création de la filière de carburant durable, ça a été très bien dit dans le reportage. Il faut aider les compagnies, effectivement, à acheter ce carburant durable. Je vous ai dit, tout euro qu'on gagne, on le met dans le renouvellement de la flotte, hein, 20 à 25% de CO2 en moins sur chaque avion de nouvelle génération. Et donc, pour le carburant durable en plus, il faut de plus en plus que le prix de ce carburant durable rejoigne progressivement le prix du fuel. On en est loin. Aujourd'hui, le carburant durable à partir de biomasse, c'est 2 à 3 fois le coût du fuel. Mais les
certains
carburants...
Certains vous diraient qu'il suffirait de taxer aussi le kérosène un peu plus que ce qu'il n'est aujourd'hui, ce qui est une dérogation pour l'intégralité du secteur aérien mondial.
Encore une fois, nous, on n'est pas contre les taxes. On paye 3 milliards d'euros de taxes et redevances en France. L'enjeu pour nous, c'est que la compétition mondiale, on est dans un secteur concurrentiel ouvert, totalement libre et mondial, que les règles soient les mêmes pour tous.
Alors vous dites, je suis prête à payer plus de taxes. Ça tombe bien, le budget regorge de pas mal de nouvelles taxes, notamment pour le secteur aérien. Si on rajoute par ailleurs les contributions carbone dont vous nous parlez, tout ça, ça coûte plus cher. Combien les auditeurs là, qui sont en train de nous écouter vont devoir payer plus cher leur billet d'avion ?
Alors, j'ai pas dit que j'étais pour plus de taxes, en tout cas pas plus de taxes locales, puisqu'on a vu que l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion...
Vous êtes d'accord pour une taxe mondiale si elle est pour tout le monde.
Voilà, en tout cas des taxes plus larges, à minima européennes.
Mais ceux qui nous écoutent, ils vont payer de combien plus cher ? Ça a déjà commencé là aussi.
Ça a déjà commencé, on est très transparent. Depuis le 1er janvier 2022, les clients peuvent regarder sur leur billet d'avion ce que coûte le mandat français à l'époque, européen maintenant, en termes de taxes. Ce sont quelques euros aujourd'hui. Mais évidemment, au fur et à mesure que les mandats vont augmenter, ça pourra être une centaine d'euros, effectivement, pour un billet long courrier.
C'est-à-dire qu'une centaine d'euros en plus sur le billet. On va prendre l'exemple d'un Paris-Tokyo. J'ai regardé ce matin, c'est environ 2000 euros en direct pour aller. Donc là, c'est une centaine d'euros en plus pour un Paris-Tokyo, par exemple, qui est un des vols les plus chers, hein.
Oui, 100 ou 150 euros, j'ai pas fait le calcul exact. Et ce qu'il faut avoir en tête, je suis un peu têtue, c'est que un client qui va faire un Nice Tokyo, aujourd'hui, s'il passe par Paris, il paiera plus cher parce qu'il aura les mandats européens au départ de Paris que s'il passe, par exemple, par Istanbul. Mmh. Et vous voyez pourquoi l'enjeu est effectivement d'élargir la réglementation.
Et alors justement, vous parlez de passer de Nice à Paris. De temps en temps, il arrivait à Orly encore jusque-là, ce client Air France. C'est fini. Ce sera Transavia à Orly et Air France que du côté de Roissy. C'est demain, hein, c'est en mars 2026. À quoi ça sert ?
Alors, c'est demain, mais on l'a annoncé depuis 2 ans pour avoir le temps
d'accompagner
nos personnels. Et effectivement, on est prêt. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les villes françaises. Bien au contraire, Transavia sera là pour desservir Nice à hauteur de 8 fréquences quotidiennes par jour, donc quotidiennes, et également Toulouse. Et puis, à Roissy, nous augmentons les fréquences sur notre hub vers la province. On aura entre 12 et 13 fréquences vers Toulouse, 12 et 13 fréquences vers Nice quotidiennement, avec une connectivité vers le monde entier. C'est l'avantage d'avoir toutes nos destinations sur le
hub de
Roissy.
Il y avait une grosse polémique sur le Paris-Nantes, sur le Paris-Lyon, que vous aviez faussement arrêté, puisqu'on peut continuer de les faire quand on part de Roissy, si on arrive d'un autre pays étranger. Il y aura d'autres destinations qui vont s'arrêter comme ça pour des questions écologiques ?
Alors, je crois qu'il faut suivre le comportement et la demande des clients. Ce qu'on a vu avec le Covid, c'est une baisse majeur de la demande sur des trajets courts, en particulier des trajets domestiques. On a vu du moins 60%. Pourquoi ? Parce que conscience environnementale et la visioconférence. Donc beaucoup de trajets qui sont faits en train ou qui sont tout simplement arrêtés par les compagnies. On travaille avec la SNCF, j'ai eu un comité directeur il y a 2 jours, sur comment on améliore notre offre combinée, train plus air. On dessert plus de 40 villes en France avec un acheminement en train, puis on prend un vol. Et nous, on a tout intérêt à travailler main dans la main pour avoir de plus en plus de connexions avec les réseaux ferrés.
Si on regarde là les périodes de fin d'année, période bien évidemment extrêmement importante pour vous, il y a un chiffre qui pourrait être inquiétant. Les Chinois ne viennent plus autant que ce qu'on pensait en France. C'est un énorme marché pour vous. Pourquoi donc ?
Alors, 2 raisons. Déjà, après le Covid, les Chinois ont beaucoup réorienté leur tourisme en interne Asie. Donc, la demande n'est plus ce qu'elle était avant le Covid. Mais par ailleurs, avec les zones de guerre, nous ne survolons... Et puis, le fait que nous ne survolons plus la Russie, hein, c'est une réglementation.
Ce n'est pas le cas, par ailleurs, de toutes les compagnies. Hein,
pas le cas des compagnies du Golfe, ce n'est pas le cas des compagnies chinoises qui, elles, font en direct. C'est une différence de plus de 2 heures de temps de trajet. Donc, c'est une différence majeure. Et donc, dans ces conditions, nous continuons à desservir Pékin et Shanghai, à la différence d'ailleurs de nos concurrents européens qui, pour beaucoup, ont arrêté.
Une question par oui ou par non. Le Wi-Fi est gratuit aujourd'hui dans les avions Air France. Il va le rester ?
Le Wi-Fi devient gratuit avec l'implémentation du Wi-Fi haut débit. Aujourd'hui, 40 avions équipés. On va le plus vite possible. 30% de la flotte qui sera équipée en fin d'année.
Il restera gratuit, oui ou non ?
Oui, c'est l'objectif et c'est pour ça qu'on avait besoin d'un Wi-Fi haut débit qui permette de servir un Wi-Fi gratuit pour tous nos clients, y compris en économie.
2 millions de personnes viennent vous entendre, on restera gratuit du côté du Wi-Fi. Un grand merci, Anne Rigaille, directrice générale d'Air France.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Et comme promis, on retrouve donc tout de suite Sandrine Foulon. Vous revenez sur un arrêt de la Cour de cassation qui a été quand même très très remarqué. Il faut dire que les juges ont estimé que traiter son employeur, alors je mets des guillemets, hein, mais c'est le vrai mot, de salopard ne justifiait pas un licenciement pour faute grave. Allez, on nage quand même en plein laxisme là, non ?
Tout est une question de contexte, Emmanuel. Dans l'affaire qui nous occupe, un préparateur physique de foot a reproché à son patron d'avoir un comportement de salopard. Était-ce le cas? Eh bien, on peut dire que ce salarié n'était pas loin de la vérité. Déjà, l'employeur n'a pas respecté le droit du travail. Il lui a imposé un changement d'affectation qui modifiait son contrat. Le salarié était fondé à refuser, mais la direction a mis fin à son CDD de manière anticipée pour faute grave, ce qui est une deuxième erreur. Le préparateur physique l'a mal vécu, c'est bien normal. En plus, il n'a pas insulté ce dirigeant devant tout le monde. Ce n'est pas une faute grave au regard du droit. Là, on est vraiment dans le cadre de la liberté d'expression du salarié.
Donc, ça veut dire que si on veut dire ça à son patron, ça doit rester finalement entre quatre yeux.
Pas forcément non plus. Dans une autre affaire, un journaliste avait traité l'un des nouveaux responsables du quotidien de « connard ». Deux fois et devant les collègues. Il lui a même dit « Vous savez, je peux être méchant ». Là encore, les juges ont évalué le contexte. Ce journaliste qui travaillait là depuis longtemps n'avait jamais fait parler de lui. Ses articles n'avaient jamais posé de problème. La nouvelle direction l'a fait sortir de ses gonds en critiquant publiquement son travail. Le salarié a réagi à une provocation. Dans un autre cas, un employé qui pensait appeler un ami a téléphoné par erreur à son employeur et l'a qualifié de balourd de patron. Tout ça sur haut-parleur devant d'autres personnes. Et là non plus, les juges n'ont pas retenu le licenciement pour faute. En revanche, injurier avec l'intention de nuire, diffamer, proférer des insultes racistes ou homophobes, qualifier publiquement son employeur d'incompétent et de malhonnête peut conduire à la porte. La Cour de cassation a confirmé le licenciement d'un employé de complexe cinématographique qui insultait la direction et ses collègues de manière excessive et agressive. Emmanuel, l'arrêt du 13 novembre dit du patron salopard est peut-être annonciateur d'une prise en compte de plus en plus forte des circonstances qui entourent un litige. Ce lundi, la Cour de cassation a tenu une audience thématique sur la liberté d'expression. Elle pourrait s'aligner sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et opérer à l'avenir un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard du contexte. La liberté d'expression en sortira-t-elle renforcée? Réponse en janvier prochain.
Merci beaucoup Sandrine Foulon. Cette chronique, on peut la retrouver en podcast sur la page d'On n'arrête pas l'écho.